Stop, c'est parti. Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
You are fake news.
La bonne réponse.
Soyez toutes et tous les bienvenus dans l'Instant M. Il est 9h40 sur France Inter.
Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer.
Vous voulez me spoiler?
Le spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouche les oreilles.
Trois générations de journalistes, Hersh Smollard, Alexander Smollard, Piotr Smollard, qui a pile mon âge et qui fut le correspondant du Monde à Jérusalem pendant 5 ans. Son père, politologue, ardent militant de la démocratie polonaise, a fondé une revue. Son grand-père, héros résistant du ghetto de Minsk, communiste fervent, a dirigé un journal en Pologne. Trois plumes, trois destins, confrontés aux multiples résurgences de l'antisémitisme d'un côté et raidissement identitaire d'Israël de l'autre. Être juif en Pologne, être juif en France, être juif en Israël, être juif tout court. Est-on juif lorsqu'on ne se sent pas juif? Peut-on ne pas se sentir juif quand les générations qui vous précèdent l'ont payé de leur sang ou de leur liberté? C'est quoi être juif? C'est quoi un mauvais juif?
L'Instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Bonjour Piotr Smollard.
Bonjour
Sonia.
Vous
êtes responsable de cette introduction, même si elle est un peu massive et un peu vertigineuse. Oui, c'est une sacrée question. Croyez-le si vous le voulez, Mauvais Juif, qui paraît aujourd'hui aux éditions Équateur, petit livre percutant, intelligent et qui m'a profondément remué, parle à la fois de transmission et de journalisme. Alors, on va prendre l'histoire par le début, non pas par le début chronologique des générations, mais par votre début à vous, on va dire. Vous êtes donc, je l'ai dit, correspondant pour le journal Le Monde, vous êtes en reportage à Gaza, vous rencontrez Ahmed Youssef, figure pragmatique, dites-vous, du Hamas. Et il vous pose d'abord, en préambule, la question « Êtes-vous juif ?» Vous choisissez de mentir.
Je choisis effectivement de mentir, comme je l'ai fait de façon systématique pendant 5 ans, que ça soit avec les dirigeants du Hamas à Gaza, ou
d'ailleurs, plus généralement. Leur fiche de renseignement sur vous vous dit chrétien, Piotr Smollard.
Oui, voilà. C'était assez hilarant, en fait, il y a quelques mois, en renouvelant ma carte de presse auprès du Hamas, puisque tous les journalistes qui veulent travailler à Gaza doivent, en quelque sorte, être accrédités auprès du Hamas. J'ai remarqué que sur ma fiche du ministère de l'Intérieur, dirigée par le Hamas, il y avait marqué effectivement catholique comme origine ou comme pratique religieuse.
Voilà, vous dites je ne suis pas juif et cela m'assure une certaine tranquillité dans mon travail en Israël.
Bien sûr. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première est que je ne voulais pas que mon travail soit parasité par l'obsession de mon identité. Mm-hmm. Non pas ma propre obsession, mais celle de lecteur qui verrait tout ce que j'écris au travers du prisme de cette origine. Et la deuxième raison, c'était aussi une raison sécuritaire pour pouvoir aller à Gaza, où je suis allé assez fréquemment et notamment au cours de l'année écoulée en raison des marches à la frontière. Il fallait que je dissimule cette identité parce que ça aurait pu aussi poser un problème de sécurité pour moi.
Et puis c'est une façon de rassurer vos interlocuteurs parce que vous dites en fait, vous savez, ça n'est pas mon conflit, je n'y connaissais rien, en arrivant en Israël, je suis partie d'une page blanche. Alors, ne pas se dire juif, ne pas se sentir juif, mais être un peu rattrapé par l'histoire ou beaucoup rattrapé par l'histoire, voilà qui renvoie en réalité à une longue tradition familiale, parce que vous êtes en Israël, et ça n'est pas un pays comme un autre, Piotr Smollard, c'est la nation juive, une terre accordée au peuple martyr de la Shoah. Votre grand-père a lui-même été pourchassé par les nazis. Israël, c'est la terre où votre grand-père a fini par immigrer. C'est la terre où votre grand-père est venu mourir, il s'appelait Hersh Smollard. On va écouter sa voix, c'est un extrait, mais vraiment bouleversant, il est très âgé, votre grand-père à ce moment-là, il est interrogé par Claude Lanzmann, qui est l'auteur de Shoah, qui est beaucoup plus jeune que lui, et qui lui dit « Du bist my Sohn », tu es mon fils, c'est en allemand.
Mein Sohn, du bist mein Sohn.
Oh, du bist mein Sohn.
Nein, du bist mein Sohn.
Es wird ein Streit sein, im Gericht müssen wir gehen.
Warum? Nein, nein, nicht im Gericht. Aber wir müssen ein bisschen sich wärmen. Ich möchte diese Anekdote mit den Brillen.
Mit den Brillen?
Ja.
Jetzt?
Jetzt, gleich.
Ich habe am Anfang des Krieges, wenn wir gingen, hat einen deutschen Avion bombardiert.
Je vous traduis en même temps. Claude Lanzmann veut maintenant l'anecdote.
Sur les lunettes.
Sur les lunettes.
Sur les lunettes.
Ouais. Et votre grand-père dit qu'en fait, au début de la guerre, il y a eu un bombardement. Et qu'il a, il a perdu ses lunettes et qu'il est resté jusqu'à la fin de la guerre pendant 4 ans sans lunettes.
Il faut comprendre qu'au début de l'offensive allemande en 1941, mon grand-père se trouve dans l'est de la Pologne. Il se trouve à Białystok, dans la ville de Białystok, où mon père ensuite, enfin où mon père est né. Et mon grand-père doit fuir à pied pendant 400 kilomètres de Białystok jusqu'à Minsk, en Biélorussie. Il se retrouve à Minsk et en fait, il est prisonnier de la réalité de ce conflit, c'est-à-dire que les Allemands établissent un ghetto, le ghetto de Minsk, dont l'histoire est extrêmement méconnue. On connaît tous, notamment de nos années à l'école, l'histoire du ghetto de Varsovie. Oui. L'histoire du ghetto de Minsk, elle, est très méconnue.
Qui comptera près de 100 000 habitants.
Près de 100 000 habitants, et mon grand-père, avec plusieurs autres militants, avec un passé clandestin communiste, donc avec l'habitude de la clandestinité, de la dissimulation, organise un réseau de résistance à l'intérieur de ce ghetto. Ce qui, pour moi, c'est assez bouleversant pour moi d'entendre sa voix, que vous la diffusiez aujourd'hui, parce que moi, je n'ai découvert que mon grand-père était un héros que très tardivement.
Vous aviez 25 ans, vous avez lu le livre.
Je vivais en Russie. À ce moment-là, et j'ai lu son livre qui avait été traduit, il l'a écrit à l'origine en yiddish et il l'a traduit en... ça a été traduit en anglais, je l'ai lu donc en anglais, et il raconte avec une langue très dépouillée, au scalpel, totalement factuelle, il raconte comment il a mis en place ce réseau, comment s'est organisée la résistance dans le ghetto de Minsk, et comment ils ont réussi à sauver la vie de milliers de juifs qui étaient à l'intérieur de ce ghetto, en parvenant à les sortir et à les conduire jusqu'aux forêts où les partisans luttaient.
Ça a été un haut lieu de la Shoah par balle. Donc il y a eu des massacres d'une atrocité absolument indescriptible. Quel juif était-il, votre grand-père ? Votre père dit de son propre père « Mon père était un juif professionnel, un juif enflammé, mais il n'a jamais fait d'effort de transmission. Il ne nous a pas parlé yiddish, par exemple. Au fond, votre grand-père ne croyait pas en la possibilité d'être juif en Pologne après la guerre. »
C'est très compliqué d'essayer de plonger dans les arcanes de son esprit sans faire d'anachronisme. Oui. Mais il faut comprendre qu'il appartenait à une génération de communistes nourris au biberon, en quelque sorte. Oui. C'est-à-dire qu'il a commencé à travailler à 11 ans.
Oui.
Très rapidement, il s'est engagé dans les jeunesses communistes. Il en est devenu une figure de proue dans sa ville de Zambrow et ensuite à Białystok.
Et ça, c'est la bandiera rossa, le drapeau rouge cher à votre grand-père, parce que c'est un chant révolutionnaire italien, il vous le chantait.
Il me l'a chanté une fois, la seule fois où nous lui avons rendu visite en Israël, puisqu'il a immigré en Israël en 71-72, et nous lui avions rendu visite, c'était à l'époque de la première intifada, j'étais très jeune, j'en garde des souvenirs assez brumeux, mais un des souvenirs, c'est vraiment dans son appartement à Tel Aviv, où il avait ouvert une grande boîte qui contenait toutes ces médailles, à la fois polonaises, soviétiques, toutes ces récompenses pour ses hauts faits. Et il avait commencé à chanter cet hymne des révolutionnaires italiens, Bandiera Rossa.
Et vous racontez l'histoire d'un homme écartelé entre sa fidélité au Parti communiste, entre sa fidélité à l'Union soviétique et à la place que l'Union soviétique va accorder aux Juifs pendant la guerre, juste après la guerre, dans la mémoire du combat contre le nazisme, et ensuite dans les résurgences de l'antisémitisme et dans la position que prendra l'Union soviétique face à Israël.
Bien sûr, parce que il était effectivement un communiste fervent, passionné, mais en même temps, il était extrêmement attaché à la préservation de la culture juive. Il n'avait pas de judaïsme religieux. Mais la culture juive, la langue yiddish, il était quand même le directeur du seul journal dans l'espace d'influence soviétique, le seul journal en yiddish, qui était diffusé à quelques milliers d'exemplaires, mais qui avait en réalité une très forte influence dans les cercles intellectuels, et notamment à Moscou. Et par conséquent, ces deux passions, ces deux... ces deux attachements viscéraux, il avait beaucoup de mal à les concilier. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, comme très souvent dans l'histoire, pas seulement en Pologne, mais dans bien d'autres pays, les Juifs ont servi de bouc émissaire. Il y a eu, notamment au moment de la guerre des Six Jours, il y a eu
en
1967, il y a eu, c'était alors Gomulka qui dirigeait le parti communiste polonais, les Juifs ont été pris pour cible. Mm-hmm. Ils ont été présentés comme une espèce de cinquième colonne. Et on a reproché beaucoup à mon grand-père, dans son journal notamment, de pas assez relayer cette propagande officielle et d'être trop complaisant à l'égard d'Israël.
Le voici donc exclu du journal, exclu du parti, contraint de quitter son pays. Il choisira, mais presque contre son gré, de partir en Israël, parce que là aussi la relation avec Israël, elle est complexe dans la famille. Et vous, malgré vous, vous êtes l'héritier en arrivant en Israël de cette histoire complexe. Votre père, maintenant, donc il est né lui juste après la guerre. Il a été chercheur au CNRS, conseiller du premier chef de gouvernement élu librement après la chute du mur en Pologne. On va l'écouter. Alors, on va l'écouter en 1982, au moment où le syndicat Solidarność, opposant au pouvoir du général Jaruzelski, est menacé de dissolution. Votre père était l'invité en 82 de France Inter, comme vous aujourd'hui.
En réalité, qu'est-ce que c'est Solidarité? C'est 10 000 membres, donc multipliés par nombre de la famille. C'est toute la Pologne. On ne peut pas faire disparaître la Pologne. C'est le problème principal des autorités communistes, qu'on ne peut pas faire disparaître de la Pologne. Et maintenant, donc, je pense que Solidarité va pas disparaître du tout. On verra encore longtemps se manifester cette volonté de la société de autodétermination.
Voilà, Alexander Smolar, le père de Piotr Smolar, mon invité ce matin, auteur de Mauvais Juif. Votre père vous le dit, j'ai toujours su que j'étais juif et pourtant je me suis très longtemps considéré comme non-juif en Pologne. Ce qui était extrêmement difficile à vivre en même temps.
Bien sûr, je pense que c'est moins en réaction ou en conflit avec son propre père que par volonté d'être polonais à part entière. La passion de sa vie, c'est vraiment la Pologne. Il s'est battu pour elle, il s'est battu pour sa démocratie. Il en a payé un prix important puisque... Il a fait un an de prison au moment des événements de mars 68. Vous savez, en France, c'était mai. En Pologne, c'était déjà mars. Le mouvement étudiant a été très sévèrement réprimé. Il y a eu des milliers d'arrestations. Et mon père, qui à ce moment-là était assistant à l'université, dans le département d'économie, a été incarcéré pendant un an. Et ensuite, il s'est retrouvé sans horizon, sans perspective, ni dans la recherche, ni dans l'engagement public. Il n'avait vraiment de possibilité de s'épanouir dans son propre pays qu'il aimait passionnément. Et il a dû, la mort dans l'âme, choisir la voie de l'exil, comme beaucoup de gens de sa génération, qui d'ailleurs ensuite se sont retrouvés souvent à Paris.
Ouais.
Paris était une terre d'accueil pour cette migration politique polonaise.
Et il fondera la revue Annexe, une revue de haute tenue intellectuelle, qu'il a d'ailleurs pilotée en famille. Il a beaucoup commenté les affaires polonaises sur les radios pirates, les radios de l'Ouest, comme Radio Freedom. Alors vous, maintenant, Piotr Smolar, vous qui êtes confronté à toute cette histoire en arrivant en Israël pour le journal Le Monde, vous dites, mon père m'a dit... Tu n'es pas juif si tu ne te sens pas juif. Vous, scout de France et catho à 14 ans, vous obligez de vous poser la question, peut-on être juif malgré soi? Peut-on être juif de façon passive?
J'ai une identité très sereine. Je ne fais pas partie de ce cliché de juif torturé qui s'arrache les cheveux, même si j'en ai plus beaucoup, en se demandant au fond qui je suis, est-ce que je suis juif à 15 ou à 80%. Moi, j'ai toujours été très heureux parce que mon identité, ce sont mes identités. Je suis français, je suis né en France, j'aime la France.
Et d'ailleurs, vous refusez jusqu'au bout de ce livre l'assignation à résidence identitaire qui, dites-vous, s'impose partout aujourd'hui.
C'est ce qui est effrayant, effectivement, dans cette période. Et si vous voulez, ma patrie, c'est la France, mais ma patrie, ce sont aussi les yeux bleus de mon fils. C'est ma forêt percheronne, c'est Paris. J'ai aussi une passion pour mon journal, et je le dis sans patriotisme d'entreprise, c'est parce que le monde m'accorde une liberté intellectuelle, financière, qui je pense n'a pas beaucoup d'équivalent aujourd'hui dans les médias. Et par conséquent, je me sens très serein. Mais en même temps, c'est vrai que j'ai choisi de prendre cette espèce de risque du dévoiement intime, qui est une sorte de violence que je m'inflige. Et je le dis sans coquetterie. C'est une violence que je m'inflige parce que je suis un ringard en matière journalistique, c'est-à-dire que je crois que la vocation de notre métier, c'est de raconter d'autres vies que la nôtre.
Oui.
Et là, j'expose une grande partie d'intimité, d'intimité familiale, de mes propres réflexions, en espérant que cela va intéresser les lecteurs et vos auditeurs
justement,
ce matin.
Justement, revenons à ce travail que vous effectuez pour Le Monde. Remontons le temps en 2014. Vous écrivez dans Le Monde une double page consacrée à l'opération Bordure Protectrice sur la bande de Gaza. On va écouter le témoignage d'un soldat israélien qui a participé. Donc sachez que sa voix a été déformée, évidemment, pour protéger son anonymat et doublée par nos soins.
On est passé à la mitrailleuse. On a encore visé et manqué des voitures. Jusqu'à ce que je vois un cycliste qui pédalait et j'ai dit « je le vise ». J'ai tiré mais je l'ai manqué. Il s'est mis à pédaler comme un fou parce qu'on lui tirait dessus et on s'est tous mis à rire dans le tank en disant « regardez-le s'enfuir ». J'en ai parlé plus tard avec deux autres tireurs. Ils se livraient au même jeu sur des voitures qui passent sur la route pour voir qui était le meilleur tireur. Cela m'a dérangé un peu au fond, mais après 3 semaines dans la bande de Gaza où vous tirez sur tout ce qui bouge, la distinction entre le bien et le mal devient floue. Vous perdez votre morale, votre bon sens, tout devient un super jeu vidéo réaliste.
Alors quand on écrit cela dans le journal Le Monde, on reçoit, parmi d'autres, un courrier extrêmement virulent d'un monsieur à qui vous aviez, dont vous aviez visité l'appartement. Il était propriétaire d'un appartement à louer. Vous lui aviez dit que vous étiez juif à ce moment-là. Puis après, vous avez menti. Vous n'avez plus jamais dit que vous étiez juif devant un inconnu. Suite à la publication de ce papier, il vous a envoyé un courrier. Et dire que vous êtes juif, Piotr Smolar, honte sur vous. C'est ça être un mauvais juif? C'est être un traître? C'est à la cause israélienne?
Je pense que l'expression mauvais juif que j'ai choisi sciemment comme titre du livre de façon un peu provocante renvoie à une forme de procès en loyauté qui a toujours été adressé aux juifs au travers des siècles. À l'origine, ce procès en loyauté était adressé à l'intérieur même des sociétés aux européennes dans lesquelles les juifs vivaient. On leur disait: en fait, vous êtes une espèce de cinquième colonne, vous ne cherchez qu'à gagner de l'argent ou à provoquer la guerre. Regardez ce qu'écrit l'historien Michel Vinocq, par exemple, sur l'affaire Dreyfus. C'est très intéressant, où il explique exactement le procès qui était adressé aux juifs français à ce moment-là. Et aujourd'hui, ce procès-là est de nature différente. Il vient très souvent d'Israël. Il est adressé aux juifs de la diaspora en disant « vous n'êtes pas assez patriotes dans le sens acquis à la cause israélienne ». Or, moi, je ne me sens pas lié par un lien organique à Israël. C'est ce que j'explique dans le livre. Je suis extrêmement, cela va sans dire, et je devrais même pas avoir le dire à ce micro, je suis extrêmement heureux que Israël ait vu le jour et qu'il ait servi de refuge après la Seconde Guerre mondiale à tous ceux qui ont réussi à survivre à la Shoah.
Mais vous parlez dans votre livre d'un sionisme d'une forme, on va dire, agressive et dévoyée. Un sionisme dans sa forme territoriale, celle d'une droite aspirant à l'annexion des colonies. Vous le dites que l'histoire des 5 ans que vous avez passés en Israël, c'est l'histoire d'un raidissement de la politique israélienne dont la matrice est devenue au fil du temps l'occupation.
Bien sûr, et tout en disant dans le même mouvement que Israël n'est pas une île, que Israël s'inscrit dans un mouvement général dans les démocraties libérales. Vous voyez bien ce qui se passe en Europe, en Hongrie, en Pologne, que je connais bien. Ce raidissement identitaire, il a lieu un peu partout. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des spécificités à Israël, et notamment l'occupation, qui est cette espèce de drame au milieu de la pièce qu'on refuse très souvent d'aborder. Et c'est vraiment ce qui m'a touché le plus au cours de ces 5 années de correspondance en Israël, parce que j'ai eu l'impression, c'est vrai, c'est l'expression que j'emploie dans le livre, que le pays est entré un peu en somnambulisme. C'est-à-dire que on refuse et de poser la question centrale du devenir d'Israël. Vous avez employé le mot sionisme. Le mot sionisme, le problème de ce mot, c'est qu'il est extrêmement piégé et tout dépend de l'interlocuteur qui l'emploie. Il y a des gens qui emploient ce mot comme une couverture pour exprimer leur antisémitisme. On voit ça aussi bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. D'autres peuvent l'employer comme un projet politique, le sionisme de la terre. C'est ce que fait la droite israélienne, c'est-à-dire il faut que nous parvenions à annexer la Cisjordanie. Les Palestiniens sont des Arabes parmi les autres, ils n'ont pas de droit politique, cette terre est à nous depuis des millénaires. Et puis, moi, je crois davantage dans le judaïsme des valeurs, dans un judaïsme humaniste, dans l'idée de transmission, dans l'idée d'héritage, dans l'idée qu'on peut s'élever et que la création d'Israël et sa préservation, ce n'est pas la fin de l'histoire.
Eh bien, ce sera la fin de l'émission. Merci beaucoup, Piotr Smolar, Mauvais Juif, petit livre très intelligent et sorti aujourd'hui aux éditions des Équateurs. Merci d'être venu
Merci beaucoup,
sur Sabine. France Inter.